Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Bonjour à tous, c'est chouette de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On se dit tout, d'autant que vous le savez, c'est vous qui faites l'émission chaque jour avec vos témoignages et vos histoires. Et aujourd'hui, on va parler des métiers dits anciens, un petit peu oubliés peut-être, que vous avez choisi d'exercer et que vous faites aujourd'hui avec passion, vous en êtes très fiers. On va parler aussi des compagnons du devoir, de ces métiers d'art d'excellence qui défendent un savoir-faire. On vous attend au 0810 055 056 pour nous parler de votre métier, vous qui êtes, je sais pas moi, charpentier de marine, barbier, ça revient en force, meunier, berger, vitrier, j'en oublie plein évidemment. On se dit tout avec aujourd'hui Patrick Dauphémont, maréchal ferrant, mais aussi responsable de l'Institut de la Transmission des Compagnons du Devoir. Bonjour et bienvenue Patrick.
Bonjour, merci.
Maréchal ferrant, c'est votre métier, mais au départ j'ai vu que vous vouliez être bûcheron. C'est vrai?
C'est vrai, vous avez trouvé ça où?
Ah bah j'ai trouvé, merci Internet. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de cette envie d'être bûcheron à celui de maréchal ferrant?
Bah je sais pas trop, j'avais envie de faire les deux, enfin les deux m'attiraient et puis le hasard de la vie a fait que j'ai choisi maréchal ferrant en premier et ça m'a plu beaucoup.
C'est vraiment les hasards de la vie ou c'est un vrai choix de métier? On choisit pas ce métier de maréchal ferrant par hasard quand même?
Bah pour être honnête, en fait j'étais parti au départ sur bûcheron. Mais comme j'avais pas de très bons résultats scolaires, le conseiller d'orientation m'avait mis dans une voie de garage au lycée agricole. Ça m'a pas plu du tout et du coup ça a pas été flamboyant et je me suis rabattu sur maréchal ferrant et c'était tant mieux en fait.
Eh ben, on va en parler de votre métier, de cette transmission, puisqu'on va parler aussi des compagnons du devoir. Et on vous attend, vous aussi, qui faites un métier qu'on dit ancien. Ancien, ça veut dire que, ben voilà, on en a eu besoin il y a très longtemps et on en a toujours besoin aujourd'hui. Il suffit de penser au boulanger. Ben, c'est un métier ancien, mais qu'on fait toujours aujourd'hui avec presque les mêmes gestes. Venez nous rejoindre et venez en parler sur France Bleu.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
De plus en plus de jeunes se dirigent vers des métiers vieux comme le monde, des métiers anciens qu'on avait oubliés pendant quelques années, qui reviennent. Rempailleurs de chaises, vanniers, dentelières, brasseurs, dératiseurs, facteurs d'orgue, tailleurs de pierre, bouilleurs de crue, tonneliers. On fait la part belle à ces métiers d'autrefois dont on a toujours besoin aujourd'hui, qui n'ont pas toujours eu bonne presse et qui reviennent en force. Alors sans aller dans les métiers hyper rares, on peut aussi parler de vignerons, de charpentiers, de boulangers. L'important c'est de parler en fait du savoir-faire, de la transmission, de la passion aussi. On fait rarement ces métiers par hasard. 0810 055 056, on se dit tout avec Patrick Dauphémont, des compagnons du devoir et maréchal ferrant. Il est notre grand témoin et on va accueillir tout de suite Patrick dans la Sarthe. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors vous êtes artisan tourneur sur bois depuis 35 ans.
Voilà.
Alors je suis désolé, je vais faire un peu ma novice, mais c'est quoi exactement tourneur sur bois?
Eh ben, tourneur sur bois, c'est tout ce qui concerne les pièces tournées. Alors, à l'origine, beaucoup étaient utilisés en ébénisterie, notamment. Mm-hmm. Bon, après, moi, j'ai diversifié mon activité, à savoir, je fais de la création personnelle, mais il y a toujours cette notion de faire des objets qui sont en relation avec les ébénistes, avec les menuisiers. Il y a plein de pièces tournées qui interviennent dans la fabrication ou la conception.
Alors moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette émission aujourd'hui, c'est de savoir comment vous avez eu envie de faire ce métier, qui vous l'a transmis aussi, Patrick.
Alors, c'est complètement le hasard. C'était pas du tout mon métier initialement. J'ai eu l'occasion de rencontrer un vieux monsieur une fois, qui était un ancien tourneur, qui m'a initié au tournage. J'ai découvert ça petit à petit. Après, j'ai fait des stages, des rencontres avec d'autres tourneurs sur bois, et puis c'est devenu ma passion.
C'est le hasard, mais pas tant que ça finalement.
Ouais, je crois que quelque part, il n'y a pas de hasard, mais vraiment, c'est ce côté là, attractif quoi, du travail du bois, de la création qu'il y a derrière tout ça. C'est vraiment passionnant. Quoi.
Le travail du bois, il y a beaucoup de métiers qu'on apprend avec les compagnons du devoir, Patrick, sur le bois.
Ah bah oui, il y a quelques métiers quand même.
Charpentier.
Charpentier, béniste, menuisier.
Et on voit bien, Patrick nous dit, souvent c'est une rencontre aussi, on n'a pas forcément en tête tous les métiers possibles quand on est jeune, quand on est un gamin, on nous dit toujours « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» C'est pas évident de répondre à cette question, sauf que parfois, il y a ces rencontres-là.
Bah, puis je crois qu'elles sont de plus en plus nécessaires, parce que les métiers aujourd'hui, on a difficile aussi à les voir. Hein. Le moindre chantier en ville, notamment, il est caché par l'échafaudage, il est caché... maintenant on cache même l'échafaudage.
Ouais.
Et c'est vrai que... les métiers ont moins de visuels qu'avant. Alors, pour s'y intéresser, pour les voir, il faut s'y intéresser, quoi.
Et est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir, Patrick, qui ont envie de se renseigner, en tout cas, sur votre travail?
Ah oui. Alors d'ailleurs, je rejoins ce que disait mon collègue Patrick, là. C'est vrai que c'est des métiers, dans le temps, on avait l'occasion de voir les gens travailler plus ou moins dans la rue, les ateliers étaient ouverts, les ateliers de maréchaux Ferrand, par exemple, d'ébéniste, souvent on pouvait accéder. Maintenant, on voit plus tout ça, chacun est un peu caché dans son coin, et c'est un peu dommage, quoi. Mmh. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai un atelier où je fais aussi des objets de déco et j'ouvre mon atelier. Bon, les gens qui viennent, je leur explique mon travail, je leur montre. J'essaie d'initier des jeunes, voilà, parce que...
Vous prenez des apprentis parfois, Patrick ?
Alors non, parce que c'est très compliqué en termes d'emploi du temps et aussi de machines. Malheureusement, maintenant, la législation en termes de machines, de normes est compliquée. Moi,
j'ai c'est-à-dire que vous pourriez prendre un apprenti, mais il n'a pas le droit de toucher la machine, par exemple. C'est un peu dommage.
C'est un peu le drame actuel, quelque part.
Est-ce que vous diriez, Patrick, que vous êtes un artisan ou un artiste ?
Ah, ça, c'est la grande question. Moi, je pense qu'avant tout, je suis un artisan. Je veux dire, je mets en œuvre un savoir-faire. Après, ce savoir-faire, on peut le décliner de différentes façons, quoi. Chaque fabrication est particulière. Et le côté artistique, c'est de s'adapter aussi à des demandes particulières. Voilà, il y a toujours des choses intéressantes.
C'est une question qu'on vous pose souvent, Patrick, aussi, si vous êtes artisan ou artiste en tant que maréchal Ferrand.
Non, en tant que maréchal, on n'est pas artiste, on est même artisan.
Ah, mais c'est unique quand même.
Oui, mais je pense que l'artiste, entre l'artiste et l'artisan, il n'y a pas une grosse marge, étant donné qu'on utilise les mêmes lois et les mêmes matériaux, mais l'artiste a vocation à donner une émotion à son œuvre, qui va quand même au-delà de l'artisan, du coup.
Oui, vous y avez le côté pratique, utile, tout de suite. Oui, effectivement. Patrick, merci d'être venu nous parler de votre métier. C'est bien, on va aussi découvrir des métiers dont on a entendu parler, mais on ne connaît pas toujours vraiment les tenants et les aboutissants de ces métiers. Ben, c'est l'occasion ou jamais. Merci encore, Patrick. À bientôt sur France Bleu. On parle aujourd'hui des métiers anciens. Alors, j'aime pas forcément ce mot d'ancien, mais on va parler plutôt de savoir-faire, de transmission, de ces métiers d'artisans, beaucoup. On peut parler aussi des compagnons du devoir, puisque c'est le but aussi avec notre grand témoin. Venez nous rejoindre et en parler sur France Bleu de cette passion, de ces métiers qui se transmettent parfois de père en fils et puis parfois avec des rencontres, des jolies rencontres du hasard. 0810 055 056.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Vous faites un métier qui existe depuis des milliers d'années, Internet est passé par là, l'automatisation aussi, mais votre métier, lui, n'a quasiment pas changé. Vous l'exercez exactement comme on l'exerçait au début des années 1900, ou presque. On a décidé de vous donner la parole aujourd'hui dans On se dit tout, alors on cherche pas forcément le métier le plus rare ou le plus ancien, non, on parle de tous ces métiers où il y a finalement un certain savoir-faire, un tour de main, on les retrouve chez les artisans, on pense au boulanger par exemple, dans les métiers du bâtiment, car carreleur, couvreur, tailleur de pierre, tapissier. Dans l'industrie, on peut retrouver le maréchal Ferrand, le chaudronnier, il y en a tellement d'autres. C'est vous qu'on veut entendre aujourd'hui au 0810 055 056. Patrick Dauphémont est maréchal Ferrand, justement. Il est aussi responsable de la transmission des compagnons du devoir. Et il est notre grand témoin aujourd'hui. On part en Isère rejoindre Mélissa. Bonjour et bienvenue Mélissa.
Bonjour.
Vous êtes agricultrice, éleveuse de chèvres et fromagère, rien que ça.
Rien que ça, oui.
Ah ben oui, moi je dis bravo.
Bah écoutez, c'est un choix de vie. Hein. Après, au-delà d'un simple travail, ça reste un choix de vie.
Comment vous l'avez fait ce choix de vie d'ailleurs ?
Alors, complètement par hasard, on va dire. Donc, déjà petite, hein, j'étais passionnée par l'extérieur, les animaux. Je me voyais pas dans un boulot enfermé. Je suis partie en école agricole pour la seconde, pour être garde forestier à cheval. Et je suis aujourd'hui agricultrice en étant passée par d'autres métiers. Mais voilà, comme quoi les rencontres qu'on fait dans notre vie font notre métier d'aujourd'hui.
C'est un petit peu ce qu'on s'est dit hein, depuis le début de cette émission. Juste avant de vous accueillir, Mélissa, je regardais notre grand témoin Patrick, je lui disais « Ah, c'est génial ce qu'elle fait Mélissa, mais on n'est pas dans les métiers des compagnons, finalement si ?»
Non.
Mais oui, un peu. Plus ou moins parce qu'on a accueilli les fromagers effectivement il n'y a pas longtemps. Donc on a quelques fromagers qui commencent le Tour de France et qui... bah, qui vont développer ce métier au sein du compagnonnage, quoi.
C'est génial, vous saviez pas ça non plus, Mélissa?
Ah non, ça je savais pas.
Ah ben voilà, ouais, les fromagers font partie maintenant des,
ah,
des compagnons.
Ah, c'est bien que ce soit reconnu.
Ah, parce que vous trouvez que c'est pas reconnu, votre métier?
Je sais pas que c'est pas reconnu, mais peut-être pas très reconnu. Et puis maintenant, le métier de fromager est souvent lié aux industries agroalimentaires. Les écoles forment les jeunes pour l'industrie laitière. Et la fromagerie, à l'échelle plus artisanale, se transmet encore vraiment par le biais des maîtres de stage, de l'apprentissage, avec des savoir-faire qui sont peut-être plus manuels aussi à petite échelle.
Vous aimeriez-vous pouvoir transmettre aussi ce savoir-faire que vous avez acquis là aujourd'hui ?
On le fait. Chaque année, sur la ferme, on accueille un porteur de projet, qui soit adulte, enfin généralement c'est du stagiaire adulte, qui a pour objectif à plus ou moins long terme de s'installer en élevage, ouais, et quand, en transformation.
Quand on vous entend, Mélissa, on sent bien ce côté artisanal, petite structure. Vous avez combien de chèvres par exemple?
J'ai 35 chèvres, on a aussi des vaches à viande et un petit atelier de volailles.
Ouais, et ça marche bien?
Ça marche très bien, oui, à condition de faire du bon travail, d'aller vers la qualité, la proximité des gens. Et ouais, c'est on est aussi dans un métier de service et c'est important qu'on montre l'image de notre travail, qu'on a à cœur de faire des choses belles et bien.
Et je pense que les gens ont envie aussi d'avoir quelque chose d'authentique. On sait d'où ça vient, on sait de qui ça vient. C'est important, ça. Les gens vous le disent certainement.
Ah oui, complètement. Ce qui fait le succès de la ferme à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment ça. C'est que les gens nous aient en face, posent les questions qu'ils ont à poser, soit au contact des animaux, rien n'est caché. Voilà, enfin, c'est un tout.
Ce côté
du goût du fromage, quoi.
Cette envie et ce côté authentique, Patrick, on le retrouve vraiment chez les compagnons, de se dire finalement, on fait un métier où il y a encore une authenticité, il y a un savoir-faire, il y a ce côté, on l'entend bien, ce côté vraiment artisan dans le sens le plus noble.
Je crois pas qu'on puisse perdre l'authenticité. De toute façon, un métier, il est authentique. Et même s'il évolue dans la technique ou dans les savoir-faire ou dans la technologie, il reste authentique, quoi. Un homme de métier, c'est un personnage à part entière en général.
Il y a certainement plein de gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, c'est bien, les compagnons du devoir », mais c'est un côté un peu mystique. Pour résumer, c'est quoi les compagnons du devoir aujourd'hui ?
Bah, les compagnons du devoir aujourd'hui, c'est alors il y a déjà plusieurs styles de compagnonnage. Il y a 3 compagnonnages en France, et l'association ouvrière des compagnons du devoir, dont je fais partie, propose un perfectionnement dans les métiers via le voyage, donc la multiplication des expériences. On essaye en fin de compte on propose aux jeunes de prendre le maximum d'expériences en un minimum de temps avec un minimum de risque.
En voyant plusieurs personnes, le même métier mais avec des personnes et des approches différentes.
Et des régions et des pays différents,
ouais,
surtout.
C'est ça,
donc ça ouvre l'esprit et ça permet d'embrasser toutes les grandes largeurs du métier, quoi.
Mélissa, merci beaucoup d'avoir partagé votre passion, parce qu'on l'entend vraiment, pour votre métier d'agricultrice, d'éleveuse de chèvres et de fromagère. Merci à vous, on vous embrasse et on continue de parler de ces métiers anciens, un peu oubliés, du compagnonnage, j'arrive à le dire, avec vos témoignages, puisque c'est le sujet d'On se dit tout aujourd'hui.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Et on parle aujourd'hui des métiers anciens, oubliés pour certains, qui reviennent au goût du jour. C'est le sujet d'On se dit tout avec vos témoignages au 0810 055 056. Et encore une fois, on fait pas un concours de meilleurs métiers, hein. C'est vraiment pas le but. L'idée, c'est de voir combien le métier que vous faites est précieux, qu'il a une histoire, que la personne qui vous a formé aussi a compté pour vous. Vous êtes peut-être même passé par les compagnons du devoir en sillonnant la France. On en parle, on se dit tout, avec notre grand témoin, c'est justement un compagnon, maréchal ferrant de profession. Patrick Dauphémont est avec nous et on va accueillir, tiens, un autre compagnon, c'est Vincent qui nous appelle du Périgord. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes maçon et vous avez fait, vous aussi, oui, les compagnons du devoir pendant 10 ans.
Voilà, tout à fait.
Ça me paraît énorme, 10 ans.
Ben, c'est 2 ans d'apprentissage et 8 ans de Tour de France comme adulteur d'invité.
Ouais, c'est ça, c'est 8 ans.
Ben, j'ai pas fait l'apprentissage, mais oui, j'ai fait 8 ans. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe pendant ces 8 années alors, Vincent, racontez-nous.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben, que des belles choses, je sais pas, peut-être les 10 plus belles années de notre vie. Et on voyage, voilà, l'étranger aussi maintenant. Et puis on rencontre des gens surtout, c'est ça aussi qui est intéressant par le fait d'apprendre son métier chez les compagnons.
Et vous avez appris des techniques différentes, parce qu'on se dit finalement maçon, il n'y a pas 50 000 techniques, il y en a pourtant des différentes.
Oui, oui, ben via les entreprises, parce que de toute manière, à chaque changement de ville, on change d'entreprise. Donc, même si, on va dire, pour faire la même maison, on n'a pas forcément les mêmes techniques, parce que, mine de rien, on a des savoir-faire plus ou moins régionaux, et c'est encore plus vrai dans le bâti ancien, où là, chaque région a quand même des spécificités particulières. Ouais.
Donc, vous avez appris un petit peu partout.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, enfin, moi, je parle pour les maçons, mais bon, tous les autres métiers, c'est à peu près pareil. Mais nous, on peut faire de l'artisanat ou de plus du béton, des choses un peu plus, voilà, des ponts, un petit peu tout jusqu'au génie civil, mais au final, ça nous enrichit et c'est intéressant.
Comment ça se passe justement, Patrick? Est-ce qu'on sait d'avance comment vont se passer, peut-être pas les 8 ans, mais la première année, on sait exactement où on va, on sait combien de temps on reste, ou c'est un petit peu au feeling?
On rentre déjà dans un parcours qu'on choisit, un parcours professionnel, donc on vise un certain niveau de diplôme, et puis on sait effectivement où on est au moment où on est, c'est-à-dire la première ville, on sait qu'on va être affecté dans, je dis n'importe quoi, à Toulouse ou Marseille ou Montauban, mais l'étape d'après, non, on ne sait pas tout de suite, ça vient au fur et à mesure. Quoi.
D'accord. Et Vincent nous disait, c'est certainement les 10 plus belles années. Qu'est-ce qui fait que c'est si particulier, les compagnons? Pourquoi c'est... Là, je l'entends et je me dis, mais tout le monde devrait faire ça, c'est pas possible.
C'est clair.
Ça a l'air magique.
Les 10 plus belles années, ouais, je partage quand même. C'est vrai que c'est des années qui marquent parce que on voyage déjà, et les voyages forment la jeunesse. Et se réveiller à Hambourg, en Roumanie, à Paris ou à Strasbourg, c'est quand même génial.
Tout en apprenant un métier.
Tout en apprenant un métier, tout en découvrant d'autres cultures, tout en... En fin de compte, moi, je le compare assez facilement aux œillères qu'on met sur un cheval d'attelage, où au départ on part avec ses principes de vie, et puis au fur et à mesure on écarte les œillères et on finit par complètement les enlever, et puis on s'ouvre au monde, et c'est le voyage qui amène ça, et le voyage est facilité chez les compagnons parce qu'on est épaulé. On n'est jamais seul et on n'est jamais tout seul face à des problèmes, en tout cas.
Vous êtes d'accord avec tout ça, Vincent?
Oui, et puis aujourd'hui le voyage à l'étranger, petit à petit ça arrive dans les universités en France depuis plusieurs années. Mais vous regardez chez les anglo-saxons, ça fait bien longtemps que dans leur cursus, le voyage à l'étranger était obligatoire. Et nous, chez les compagnons, ça a toujours été, quoi. Si vous voulez, on peut dire qu'on avait déjà un train d'avance, parce que le voyage, c'est ce qui fait la différence entre un maçon qui reste chez lui toute sa vie et celui qui ose partir, quoi.
Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je vois que vous avez monté votre entreprise. C'est quoi votre spécificité à vous?
La restauration du patrimoine. Parce qu'on a la chance d'être dans une région où c'est assez riche architecturalement. Donc on en profite, on se fait plaisir.
Et il y a des compagnons qui passent par chez vous?
Oui, voilà, nous on est rattachés à la maison de Périgueux. Donc de temps en temps, quand il y en a, parce que bon, voilà, c'est un petit peu en voie de disparition, c'est pour ça que j'appelais aussi, mais pour recruter des maçons. Mais oui, on accueille les jeunes, et puis j'ai un compagnon, moi, sédentaire aussi dans mon entreprise, qui est chef d'équipe. Et voilà, on essaye de retransmettre ce que les anciens nous ont appris.
C'est vrai que les jeunes ne pensent pas tout de suite au métier de maçon, dans les métiers du bâtiment. On sait qu'il y a des besoins, on sait que c'est un beau métier, c'est un métier qui forme. Et voilà, c'est peut-être le moment de remettre ce métier au goût du jour. Peut-être grâce à vous aussi, Vincent, cet après-midi. Je l'espère.
Ouais, ce serait bien, parce que c'est vraiment beau qu'on bâtit. Et puis, il y a d'autres métiers comme nous, mais nous, vous arrivez à la retraite, 10 ans après, 15 ans après, vous repassez devant une maison. Elle est toujours là, quoi.
Et c'est donc moi qui l'ai fait, on peut se le dire.
Et ça, c'est vraiment super dans notre métier.
Merci beaucoup, Vincent, d'être venu témoigner sur France Bleu. On parle de ces métiers anciens, ces métiers qui sont toujours là aujourd'hui, que vous faites avec passion. Et puis, on parle également des compagnons, puisque notre grand témoin en fait partie, Vincent, qui est avec nous aussi. 0810 055 056.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et on parle des métiers anciens aujourd'hui, voire oubliés pour certains dans On se dit tout, avec l'envie de mettre à l'honneur un certain savoir-faire, des gestes qui n'ont pratiquement pas bougé depuis des siècles. Racontez-nous votre métier, comment vous l'avez choisi, pourquoi on en a toujours besoin aujourd'hui, et puis qui vous a donné envie de le faire et comment vous l'avez appris ce métier. 0810 055 056, vous êtes joaillier, vitrailliste, luthier, pâtissier, caviste, c'est vous qui avez la parole sur France Bleu avec Patrick. Patrick Dauphémont, qui est notre grand témoin, responsable de la transmission des compagnons du devoir, et avec Maurice en Haute-Vienne. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Vous êtes retraité aujourd'hui, mais vous avez adoré votre métier, dont vous êtes très fier, puisque vous étiez boucher.
Ben, tout à fait. Fier de l'avoir été, fier de l'avoir appris. Et je dirais même aujourd'hui, si je peux dire à des jeunes, je sais pas faire, je sais pas quoi faire, pourquoi pas, apprendre la boucherie, être son artisan boucher, être le boucher au supermarché du coin, c'est pas interdit aujourd'hui. Il y a des rémunérations qui sont tout à fait appréciables aujourd'hui pour le jeune qui a été bien formé, certes, qui a eu de bons maîtres d'apprentissage aussi, et qui en a envie, excusez-moi du peu, aujourd'hui, on aurait tendance à dire non. Entre guillemets, les retraités, bon, les jeunes n'en veulent pas. Non. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent un avenir, ils veulent faire comme tout le monde, gagner un petit peu de sous et se faire. Regardez, moi, j'ai pas honte, j'ai fait construire ma maison comme tout le monde, j'ai élevé mes enfants et voilà, je suis retraité. Je suis content,
Maurice,
d'avoir été ouvrier, boucher. Bon, j'étais agent de maîtrise, j'aurais pu être cadre. Si je l'avais voulu, si je m'avais baladé avec ma petite valise, mais
aujourd'hui, est-ce que ça vous aurait plu, ça, d'ailleurs, de vous balader avec votre petite valise? Est-ce que ça vous aurait vraiment plu? C'est une question.
Vous venez de taper où il fallait. Excusez-moi un peu. C'est vrai que. Alors, bon, moi, j'ai travaillé dans la grande distribution. Bon. Le top du top, c'est que moi, j'avais de la belle famille du côté de mes beaux-frères, tout ça. Ils étaient tous artisans dans l'alimentaire. Un cuistot, l'autre boulanger, l'autre charcutier. Alors, imaginez le.
On devait bien manger chez vous, ouais. Les repas de famille, c'était sympa.
C'était pas triste. Alors, ils disaient, ouais, ou toi, tu travailles dans la grande distribution. Aujourd'hui, excusez-moi du peu. Alors, je vous dirais une. Bon, ça n'engage que moi parce que j'aime mon métier. Voilà. Vous savez, dans un pré où il y a 15 vaches, aujourd'hui, il y en a 7 pour la distribution et 3 ou 4 pour les artisans. Pourquoi ? Parce que artisan boucher, c'est super dur, c'est vrai.
On n'est pas là, Maurice, pour faire la différence et pour faire un débat entre la grande distribution et les artisans. C'est vraiment pas le sujet dont se dit tout aujourd'hui. On essaye vraiment de parler du métier, de la transmission. Moi, ce que j'ai aimé dans le témoignage de Maurice, c'était le côté famille avec un boulanger, avec un restaurateur, lui qui était boucher. Il y a ce côté-là aussi dans les compagnons. Finalement, quand on est tous ensemble, on peut monter une société presque.
Ah bah oui, c'est une micro-société même. Et après, ce qui est intéressant dans le témoignage, là, effectivement, c'est que le métier, quel qu'il soit dans l'artisanat, n'a pas de limite, en fin de compte. Ça ouvre toutes les portes. Si vous avez un métier, vous pouvez faire le tour du monde, vous n'avez plus besoin d'argent. Parce que partout, il y a besoin d'artisanat et partout, il y a besoin d'hommes de métier. Donc, c'est assez facile. Et puis, on peut être artisan pur et dur, créer sa boîte et évoluer dans son entreprise, tout comme s'orienter vers l'industrie, tout comme innover, inventer. Enfin, il y a vraiment aucune limite à l'artisanat. Et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes, surtout. C'est que, venez, il n'y a aucune limite. Tout est possible.
Merci beaucoup, Maurice, d'être venu vous aussi témoigner dans On se dit tout, on parle des métiers anciens qui sont toujours là aujourd'hui, que vous pratiquez avec passion. On vous attend pour encore quelques minutes.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Vous êtes barbier, chaudronnier, bottier, boulanger, forgeron, berger, des métiers qui ne datent pas d'hier mais dont on a toujours besoin aujourd'hui. Savoir-faire, excellence, compagnonnage, racontez-nous pourquoi vous avez choisi ce métier au 0810 055 056 et on part dans les Vosges rejoindre Anne. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors là on en a deux pour le prix d'un, il y a vous, il y a votre mari aussi. Vous, oui. D'abord, vous êtes doreuse.
Voilà, je suis doreuse à la feuille ornementaliste. Donc en fait, ça consiste à tout ce qui est restauration de bois doré, cadres, miroirs, statuaires, mais également tout ce qui est en métal et ce qui peut pas être trempé, ce que le doreur sur métaux ne peut pas tremper dans des bains en fait pour redorer.
Un métier minutieux, un métier méticuleux.
Oui, bah forcément. Enfin, beaucoup de métiers d'art sont. Enfin, c'est le cas pour beaucoup de métiers d'art. J'ai la chance d'avoir un métier très diversifié. À la fois, on va d'abord toucher tout ce qui est ornement, donc réparation du cadre, des ornements qui sont abîmés, cassés. Là, on va faire plein de poussière, on va poncer. Et ensuite, eh ben, on a tout le travail de la dorure. Là, on n'a plus le droit à une seule rayure de papier de verre, plus de poussière. Il faut être tranquille, posé.
On n'ouvre même pas les fenêtres, hein, j'imagine.
Ah non, 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 là, ouais. Impossible.
Vous avez toujours voulu faire ce métier ou ça a été un peu une rencontre, vous aussi ?
Alors non, en fait, ça a été une découverte au moment de faire mes vœux, au moment du bac, en fait. J'avais aucune idée, je savais même pas que ce métier existait. Mais en cherchant, en fouillant, c'est devenu une évidence, surtout en entrant dans un atelier de dorure, en fait. L'odeur de la colle de peau de lapin, de voir des bois sculptés, des statues, des cadres dans un atelier, ça m'a subjuguée. Et donc, en fait, j'ai trouvé que ça, c'était déjà très féminin, une femme pouvait faire ce métier, et puis très diverse, ça correspondait vraiment à mon caractère. Moi, il faut que ça change, que ça bouge, et puis manipuler la feuille d'or, c'est magique, quoi.
Ah bah oui, vous imaginez, c'est incroyable. Mais d'où l'importance d'avoir possibilité de rentrer dans ces ateliers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis on va parler aussi de votre mari, qui est tailleur de pierre.
Voilà, alors donc il est tailleur de pierre et sculpteur. À la base, il travaillait de bois, donc en sculpture, enfin il a fait de la menuiserie, c'était pas assez manuel, il arrive à l'ébénisterie, il y avait encore trop de machines, jusqu'à la sculpture où là il y avait plus que la gouge qui prolongeait la main. Mais ça faisait à peu près 20 ans qu'il faisait, il a commencé à 20 ans, donc faire que du mobilier, de la volute et tout, ça commençait un petit peu il a fait le tour en fait de la question, et donc il est venu à la pierre, et donc il avait les bases dans le bois, donc la pierre pour lui a été une évidence, sauf la lourdeur de la matière. Mais après, il est donc devenu tailleur de pierre et sculpteur. Donc lui, il est amené à restaurer tout ce qui est encadrement de portes, de fenêtres, éléments d'architecture, calvaire, fontaine. Voilà un petit peu ce qu'il a à longueur de journée en termes de restauration.
On a une image, j'ai une image, je vais le dire, le tailleur de pierre un peu solitaire, un peu taciturne. Il est comme ça, votre mari ?
Un peu. Il aime bien être tranquille, taille sa pierre. Il a un peu poussiéreux, il aime pas trop sortir justement parce qu'il est poussiéreux. Mais ils ont besoin d'être dans leur bulle, quoi, parce que ils ont tout dans la tête, la moulure dans la tête, les cotes dans la tête. Ça demande beaucoup. Enfin, la pierre, c'est une matière qui est, elle est tellement sublime, mais en même temps, elle demande
fragile
tellement
en même temps
qu'il a retordre en fait. Donc il faut qu'il soit concentré. Enfin, c'est sûr que ouais, mais c'est un peu ça.
Vous confirmez ou pas, Patrick? Oui, chez les compagnons, les tailleurs de pierre, c'est les gars un peu bizarres qu'on aime bien, qui sont un peu fascinants quand même.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ah, souvent, ils portent des sandalettes. mais c'est vrai que le métier nous façonne. Et les tailleurs de pierre ont une tendance à la philosophie assez facile, ouais.
Mais la philosophie en général, chez les compagnons, je pense que ça fait partie du truc aussi, non ?
Ah bah complètement, oui, puisque notre partie initiatique, justement, si on rentre un peu dans le mystère, c'est ni plus ni moins le résultat de notre culture judéo-chrétienne inspirée par les grands philosophes qui ont marqué notre culture, quoi.
Et ça, cette initiation, c'est vraiment que pour les compagnons, les gens de l'extérieur ne peuvent pas y assister.
Mais les gens, non, alors oui, c'est en fait ce qui est caché, c'est pas tant le fond, parce que le fond, il appartient à tout le monde, étant donné que c'est notre culture, c'est la forme. Et on cache la forme pour le jeune, en fin de compte. C'est surtout pour lui qu'on la cache, parce que ce qu'on attend, c'est qu'il arrive le jour de son initiation avec un petit peu le trac, et qu'il ait tous les sens en éveil. Parce qu'on est dans une tradition de transmission orale, et il faut qu'il soit particulièrement attentif à ce qui va se passer.
Il y a un côté quand même fascinant, c'est peut-être ce côté-là qui fascine de l'extérieur. Peut-être. Anne, merci beaucoup d'avoir été avec nous, vous embrasserez votre tailleur de pierre de notre part, et nous on continue de parler de ces métiers d'avant, ces métiers anciens que vous faites encore aujourd'hui. 0810 055 056.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Et on parle aujourd'hui des métiers anciens dans On se dit tout, un certain savoir-faire, des gestes qui ont pratiquement pas bougé depuis des siècles. On en parle avec vous et notre grand témoin aujourd'hui, Patrick Dauphémont, qui est maréchal ferrant et des compagnons du devoir, et avec Ghislaine également à Marseille. Bonjour Ghislaine, enfin à côté de Marseille.
Bonjour Vanessa, bonjour Patrick. Bonjour. Je suis bien contente de pouvoir parler et communiquer avec vous concernant les métiers du compagnon du devoir.
Parce que vous êtes artisan tapissière.
Voilà, tapissière en meuble.
Tapissière en meuble. Qu'est-ce que vous faites concrètement alors?
Alors concrètement...
C'est pas que des fauteuils en meuble.
Fauteuils, toutes sortes de fauteuils. On fait aussi de... Je sais pas si on peut appeler ça de l'ébénisterie, mais on travaille le bois. On apprend plein de notions sur les matières, les clous, le galon. Donc c'est un, il y a un petit côté artistique quand même pour, je trouve, moi, pour une femme et pour un homme aussi, ce métier. Il faut être costaud parce que quand il s'agit de débarder un Voltaire ou un, ou même une méridienne. Et c'est des recouvertures, c'est des tensions de ressort, c'est un métier qui est dur. Mais en même temps, qui est fin et délicat.
Ah, c'est joliment expliqué. Et vous êtes passé, vous aussi, par les compagnons.
Alors oui, je ne sais pas si vous en avez parlé dans l'émission, parce que je n'ai pas tout suivi. Mais moi, j'ai fait une formation d'adulte, c'est-à-dire lors d'une opération porte ouverte sur Marseille, l'école des compagnons du devoir Marseille. Et j'ai, grâce à ça, j'ai pu obtenir une formation de CAP, donc tapissière en meuble. Voilà.
Oui, ça c'est important de le dire, Patrick. C'est pas que pour les jeunes à partir de 15 ans. Les compagnons, à un moment donné aussi, on peut se former avec vous pour les adultes.
Ouais. Oui, pardon. Allez-y, Gisèle.
Ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Déjà, je connaissais cette école de compagnons du devoir, enfin cette. Mais le fait d'être formé par un compagnon et d'aller dans des stages et dans des maisons où il y avait des compagnons, c'est vraiment quelque chose de. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je travaille aussi et toujours dans ce métier. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Nous sommes reconnus.
Oui. Et comment ça se passe alors, Patrick, pour les adultes aujourd'hui, avec les compagnons?
Ben, il y a différentes voies. Effectivement, soit on arrive par l'apprentissage, soit on arrive avec déjà une formation et on part sur le Tour de France pour se perfectionner sur un temps de voyage, ou on peut venir se former chez nous également en tant qu'adulte. Donc c'est de la formation continue et on rentre dans un cursus de formation sans se déplacer ou seulement en fonction de son embauche, parce que les patrons sont pas toujours au pied de la maison non plus. Et on vient régulièrement en stage de formation chez les compagnons dans un atelier ou un siège compagnonique pour poursuivre sa formation.
D'accord. Et Ghislaine, aujourd'hui, vous aimeriez vous aussi transmettre votre métier de tapissière, d'artisan tapissière?
Ah oui, parce que c'est un métier pas qui se perd, mais on a du mal à trouver. Il y en a encore, mais ça a été un moment donné où on était un peu difficile à trouver au niveau de... On a une concurrence aussi extérieure sur d'autres domaines des grands magasins.
Mais oui. Et puis on en parlait tout à l'heure avec notre boucher, il y a aussi des métiers qui ont eu un moment donné, on a eu une mauvaise image de certains métiers, on les avait un petit peu oubliés. J'ai l'impression, c'est une impression hein, peut-être Patrick Dauphémont, que ces métiers anciens, les métiers d'art dont on parlait, les métiers de bouche, les métiers du bois, reviennent en force et qu'aujourd'hui on n'a plus peur de dire « tiens, je suis artisan, je fais ce métier ».
Ben, je sais pas si c'est acté, ça, si on a vraiment plus peur, mais en tout cas, il faut pas avoir peur.
Ben oui.
Parce que, après, ça, c'est mon avis à moi, mais quand on est artisan, on touche aux lois universelles qui régissent l'univers. Donc, pour transformer la matière, il faut toucher la physique, l'arithmétique, la résistance des matériaux, l'inertie, la pesanteur, etc. Et ça, c'est immuable. Ça changera jamais.
On va terminer avec cette philosophie, peut-être. Merci, Ghislaine. Merci à vous, Patrick, d'avoir été notre grand témoin. Et merci à tous pour vos témoignages dans On se dit tout aujourd'hui encore.